3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le 29 janvier 1977, lors de la 34e célébration des Golden Globes, deux nouvelles vedettes étaient alors nominées, chacun pour un prix différent qu'il espérait gagner afin de servir de tremplin pour leur carrière. D'un côté se trouvait l'acteur Sylvester Stallone, nommé dans la catégorie du meilleur film pour Rocky, alors que de l'autre, Arnold Schwarzenegger, lui, espérait repartir avec le trophée du Best Acting Debut in a Motion Picture pour le film Stay Hungry. Durant la soirée, Stallone lancera accidentellement un bouquet de fleurs présent sur sa table en direction de celle de Schwarzenegger, ce qui déclenchera alors une forte compétition entre les deux hommes durant les années 70 et 80. Rocky, Rambo, Oscar, Over the Top, Tango and Cash, Cliffhanger, Demolition Man, Get Carter, Assassins, Judge Dredd et Daylight affronteront durant cette période Conan the Barbarian, The Terminator, Predator, Twins, True Lie, Running Man, Total Recall, Last Action Hero et Eraser. Durant cette période, les acteurs rivaux s'attaqueront mutuellement dans la presse et chercheront à se surpasser avec plus de meurtres à l'écran et des armes de plus en plus énormes. Malgré cela, ces deux vedettes deviendront plus tard des partenaires en affaires avec l'acteur Bruce Willis lorsqu'ils investiront dans la chaîne de restaurants Planet Hollywood qui ouvrira alors ses portes à New York le 22 octobre 1991. Mais cette rivalité prendra fin vers la fin des années 1990 lorsque l'impact des deux acteurs sur le box-office s'était considérablement réduit et que la popularité des restaurants Planet Hollywood fut en déclin. C'est vers ce moment que les deux hommes deviendront de bons amis et envisageaient même la création d'une co-entreprise d'acteurs. Schwarzenegger invitera Stallone par la suite pour plusieurs inaugurations durant son mandat de gouverneur de la Californie et, en signe de bonne volonté, Stallone fera alors un don de plus de 15 000 $ à la campagne de réélection de Schwarzenegger en 2005. Aujourd'hui, le couple de comédiens a joué dans plus de 4 films ensemble, soit la trilogie de The Expendables ainsi que le film Escape Plan. Mais ce sera plus la période du milieu des années 80, soit au plus fort de la rivalité entre les deux hommes, qui sera touchée par cette émission, alors que je vous parlerai des films Cobra du réalisateur George P. Cosmatos, ainsi que Commando du metteur en scène Mark Lester. Donc, préparez-vous à affronter une organisation de suprémacistes et de radicaux sociaux tout en cherchant à délivrer votre jeune fille enlevée par un ancien partenaire assoiffé de vengeance dans ce programme double musclé où deux acteurs nous montreront comment leur rivalité leur a permis de nous donner le meilleur ainsi que le pire de leur carrière mutuelle.
Non, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
So let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket, or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater, because together we can keep the movie theater experience alive.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
Society is breeding a new kind of criminal. It's also breeding a new kind of cop. Meet Cobra. He does the job nobody wants.
Did you use unnecessary deadly force?
I used everything I had.
Do you know you have an attitude problem?
Yeah, but it's just a little one. You think you would recognize me if you saw him again?
The tall one?
Yeah. The one who wants to kill you.
Do what you have to do to get a lead on this maniac.
And if I find him?
Do what you do best.
Stallone is Cobra, the strong arm of the law.
Cobra est un drame policier qui a été distribué par les studios Cannon Group et Warner Brothers le 23 mai 1986. Ce film américain d'une durée de 89 minutes a coûté plus de 25 millions de dollars à produire et amassera plus de 160 millions de dollars au box-office mondial. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène George P. Cosmatos, ce réalisateur américain qui nous avait donné les films Of Unknown Origin et Rambo First Blood Part 2. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs israéliens Menahem Golan, lui qui avait produit le film Delta Force, Enter the Ninja et Death Wish numéro 2, ainsi que Yoram Globus, lui qui avait produit le film Lambada, Cyborg, Bloodsport et Missing in Action. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Sylvester Stallone, lui qui avait écrit les scénarios des films Rocky, Fist et Over the Top. Dans la distribution, on y retrouve Sylvester Stallone, Bridget Nielsen, Renny Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson, John Hirschfeld et Lee Garlington. Un policier chargé de faire face aux meurtriers les plus dangereux dans des cas d'urgence doit assurer la protection d'un mannequin qui a été témoin, malgré elle, d'un meurtre commis par un maniaque qui fait des ravages dans la ville. Sylvester Stallone sera signé pour interpréter le rôle d'Axel Foley dans la comédie policière de 1984 « Beverly Hills Cop ». Après avoir décidé de réécrire presque complètement le scénario, supprimant par le fait même presque tous les aspects comiques de celui-ci en le transformant en un véritable film d'action, Stallone remettra sa nouvelle version du script qui sera alors rejetée par le studio de production Paramount Pictures car les scènes d'action proposées auraient augmenté le budget bien au-delà de ce qui avait été prévu, forçant donc, du coup, le départ de l'acteur du dit projet. Voulant créer un nouveau personnage de film d'action, Stallone retravaillera ses idées de sa version du scénario de Beverly Hills Cop et s'inspirera en partie du roman de A Running Duck, écrit en 1974 par l'auteur Paula Gosling. Après avoir terminé l'écriture de son nouveau scénario, Stallone obtiendra alors un accord avec les compagnies Cannon Group Films et Warner Bros. Incorporated. Ce sera la toute première fois de leur histoire que ces deux compagnies travailleront ensemble. Stallone embauchera par la suite le metteur en scène George P. Cosmatos, avec qui il venait de travailler sur son précédent film, soit Rambo First Blood Part 2. Au niveau de la distribution, Stallone rendra hommage au drame policier Dirty Harry en embauchant les acteurs Rennie Santoni et Andy Robinson, qui avaient eu un rôle dans le film de 1971. De plus, il embauchera l'actrice Bridget Nelson, avec qui il était marié à cette époque et qu'il avait rencontré sur le tournage de Rocky IV. Pour le rôle du protagoniste, ce sera l'acteur Brian Thompson qui obtiendra le poste, et ce, après plus de 7 auditions. Il s'agira ici du premier rôle important au cinéma de l'acteur qui avait eu un petit rôle secondaire l'année précédente dans The Terminator du réalisateur James Cameron. Le tournage débutera le 24 octobre 1985. À l'origine, Cobra devait être tourné à Seattle, mais aura finalement lieu à Los Angeles, à Long Beach et à Piru en Californie. Presque toutes les séquences de tournage auront lieu dans des ruelles, des bars, des banques, des hôpitaux, des compagnies d'assurance ainsi que des salons de tatouage existants réellement. Durant la production, Stallone avait une attitude égocentrique sur le plateau de tournage au point où il était même interdit aux acteurs de soutien et aux figurants de lui parler. De plus, Thompson demandera à plusieurs reprises des conseils à l'acteur sur la façon de jouer son personnage du Night Slasher, y compris des questions sur les antécédents et les motivations personnelles de son personnage. Mais Stallone ne montra aucun intérêt pour le sujet, disant tout simplement au jeune acteur que son personnage était tout simplement diabolique. D'ailleurs, pour la séquence du monologue du Night Slasher, avant le combat final, Thompson devra tourner la scène avec le superviseur du scénario, Stallone étant occupé à regarder un match de basket à la télévision. À un moment donné, pendant le tournage, Stallone se plaindra au directeur de la photographie, Rick Waite, que la production prenait du retard et qu'il devait pousser son équipe à travailler plus dur. Mais Waite rétorqua à l'acteur que les retards étaient dus à ses bêtises personnelles avec Bridget Nelson et à ses gardes du corps. Bien que Stallone ait été choqué que quelqu'un lui parle de cette façon, il se comportera de manière plus professionnelle par la suite, bien qu'il soit revenu à son comportement égocentrique quelques semaines plus tard. De plus, durant la production, Stallone se comportait comme un véritable co-réalisateur avec Cosmatos, celui-ci planifiant lui-même de nombreux plans. Le véhicule de Cobra, un Mercury 1950 personnalisé, appartenait en réalité à Sylvester Stallone. Afin de ne pas endommager son véhicule, durant les séquences de cascade, 3 répliques de la voiture seront alors commandées à Dean Bryant, un constructeur de voitures pour les vedettes d'Hollywood. Le véhicule de Stallone servira à la conduite normale et les prises de vue intérieures, alors que les autres voitures serviront aux différentes cascades et qu'elles seront pilotées par des cascadeurs. 2 de ces véhicules seront détruits lors du tournage, alors que le dernier sera acheté par un pilote de course qui la conduira dans le Carrera Pan Americana 7 à la fin des années 80. Le propriétaire tentera également de battre le record de vitesse au sol pour les V8 à tête plate suralimentés avec ce même véhicule en 1989, mais échouera. Malheureusement, la voiture appartenant à Sylvester Stallone sera volée dans un entrepôt dans lequel elle se trouvait et est toujours portée disparue à ce jour. Pour le couteau utilisé par le Night Slasher, ce dernier sera fabriqué par le concepteur de couteaux Herman Schneider, Stallone demandant à l'artiste de créer un couteau que le public n'oublierait jamais. À l'origine, la scène de poursuite en moto se situant à la conclusion du long métrage devait être filmée à Seattle pendant la nuit. Cependant, Stallone changera la fin et transformera la séquence nocturne en séquence de jour à cause d'un sérieux problème de moustiques qui aurait rendu le tournage de nuit très difficile à supporter. Cependant, toutes les séquences finales du long-métrage se situant à l'intérieur d'une usine durent-elles à être tournées durant la nuit, le tournage ayant lieu dans une véritable usine fonctionnelle, et ce, afin de permettre aux employés de continuer leur travail durant le jour. Le tournage sera très exigeant pour l'acteur Brian Thompson. En effet, lors de la confrontation finale avec le personnage de Cobra, Stallone frappera accidentellement le jeune acteur à la mâchoire avec la crosse de l'arme qu'il tenait. L'équipe de cascadeurs, dirigée par Terry Leonard, protégeront alors pour le reste du tournage de la séquence l'acteur afin de cacher le fait qu'il avait été vraiment blessé. De plus, Thompson sera également blessé lors de la scène de poursuite finale alors que son personnage poursuit celui de l'actrice Bridget Nelson. Avant le tournage de la scène, Thompson demandera des instructions précises à la fois au réalisateur ainsi qu'à la personne chargée des effets spéciaux, mais lorsque surviendra l'effet spécial en question, l'acteur sera blessé au menton et au cou, laissant ce dernier quelque peu ensanglanté. Suite à la conclusion du tournage, ce sera le compositeur Sylvester Lemay qui réalisera la partition musicale du long-métrage. Stallone désirera des chansons marquantes qui donneront un impact à son film, quelque chose qu'il avait fait précédemment avec Rocky III et Rocky IV. Ces chansons seront personnellement choisies par l'acteur. Ce sera d'ailleurs lui qui recrutera personnellement le chanteur John Cafferty, qui avait également chanté une chanson pour la bande originale de Rocky IV. Cafferty créa Voice of American Son, qui servira alors de chanson-thème pour le film Cobra. Pour la chanson Feel the Heat, cette dernière avait été entendue lors du tournage d'un vidéoclip par Jean Beauvoir, qui eut lieu dans le même complexe où était tourné Cobra. Stallone adora la chanson, et le reste fera partie de l'histoire. La chanson « The Touch » de Stan Butch sera également écrite pour Cobra, mais lorsque cette dernière sera rejetée par Stallone, elle deviendra par la suite la chanson-thème du film d'animation de 1986, « Transformers The Movie ». La toute première version du montage final donnera un long-métrage de plus de 130 minutes aux exécutifs de la Warner Brothers. Craignant que Cobra, qui serait présenté en première la semaine suivant la sortie de Top Gun, ne soit totalement éclipsé au niveau du box-office et afin d'assurer au moins une projection supplémentaire en salle par journée, le film sera fortement réédité. Cela forcera donc Stallone à supprimer une grande partie de l'intrigue et des scènes impliquant des personnages autres que le sien. Avec plus de 67 morts dans le film d'action, Cobra aura besoin de subir de nouvelles coupures car le film était si graphiquement violent qu'il recevra initialement une cote X de la part de la MPAA. Cobra sortira en salle le 23 mai 1986 à travers plus de 2131 écrans en Amérique du Nord et amassera plus de 15,7 millions de dollars durant son tout premier week-end. Malgré le fait qu'il amassera dans le monde entier plus de 6 fois son budget initial de 25 millions de dollars, les exécutifs de la Warner Bros. Considéreront le film comme une déception, car ses 48 millions de dollars au box-office nord-américain n'étaient pas à la hauteur du succès de Rambo. Lors de l'avant-première à Hollywood, l'acteur Brian Thompson dut acheter son propre billet afin d'assister à la représentation. Ce dernier n'ayant même pas été invité à la première par les producteurs et les exécutifs de la Warner Bros. Une série d'incidents marqueront cependant la sortie du long-métrage dans les salles de cinéma du Brésil. En effet, les censeurs du gouvernement brésilien envisagèrent d'interdire le film aux moins de 18 ans après qu'une salle de cinéma ait été saccadée par le public suite à une projection et qu'un policier à la retraite ait tiré avec son pistolet et blessé 3 personnes suite à une autre diffusion. Finalement, ce seront les tribunaux brésiliens qui émettront une ordonnance visant à faire passer l'âge de visionnement de 14 à 18 ans et ordonneront la suppression d'environ 15 minutes de séquence, incluant la fusillade initiale du supermarché et toute la séquence finale. Malgré ces coupures, le film amassera plus de 3 millions de dollars au Brésil. Warner Bros. Sera le premier studio de cinéma à offrir des incitations en argent pour éliminer le piratage. Cobra sera l'une des premières productions à faire partie de ce plan où les dirigeants du studio étaient prêts à payer une récompense de plus de 100 $ à quiconque dénoncerait une personne qui enregistrait illégalement le film durant sa diffusion en salle. De plus, l'entreprise encodera des marquages électroniques sur plus de 2000 bobines qui seront alors distribuées dans toute l'Amérique du Nord. Ces marques, encodées, aideront à identifier plusieurs responsables ayant enregistré le film durant sa projection en salle. Cobra obtiendra plusieurs nominations, mais celles-ci seront aux Razzies Awards en 1987 dans plusieurs catégories, dont le pire film, le pire acteur, soit Sylvester Stallone, la pire actrice, soit Bridget Nelson, le pire acteur de soutien, le pire nouvel acteur, Brian Thompson, et finalement, le pire scénario. Un jeu vidéo intitulé Cobra sera produit en 1986 par Ocean Software pour être distribué sur les consoles européennes Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Bien qu'en 1987, la Canon Film ainsi que la Warner tenteront de produire une suite, le projet ne se concrétisera jamais, au grand regret de Stallone, qui aurait voulu transformer son film unique en franchise, comme pour ses autres films. En mai 2019, au Festival de Cannes, Stallone annoncera qu'un remake était en cours de développement sous la forme d'une série télévisée qui impliquerait alors la participation de Robert Rodriguez en tant que réalisateur et créateur. Mais l'arrivée de la pandémie de la COVID-19 changeront ses plans, laissant le projet en suspens. Du côté des points forts, Cobra comprend un look fort intéressant au niveau visuel avec une voiture qui sort de l'ordinaire ainsi qu'un couteau mémorable, mais ce sera la prestation de Brian Thompson qui sera véritablement à la hauteur pour interpréter ce dangereux psychopathe, l'acteur réussissant à être une véritable menace au personnage de Stallone. Quelques cascades sont tout de même spectaculaires, notamment durant la séquence de poursuite automobile. Mais du côté des points faibles, Cobra nous présente ici un scénario simpliste de Stallone, rempli de répliques artificielles et ridicules, qui ne sert ici qu'à mettre en valeur le chauvisme du héros et ses façons expéditives de régler tous ses problèmes par la violence. De plus, les quelques blagues que l'auteur a cherché à mettre dans son histoire tombent ici totalement à plat, le tout sentant véritablement le réchauffer. D'ailleurs, le film est une suite de séquences sans vie et automatiques qui nous donnent plus l'impression ici que le réalisateur ne fait qu'empocher son chèque de paye sans plus, sa réalisation étant ici extrêmement paresseuse et sans énergie. Tous les personnages de ce long métrage sont ultra caricaturales et le développement de ces derniers est minimal, nous donnant ainsi des interprétations sans aucune nuance. D'ailleurs, même Stallone nous donne ici un personnage ultra macho qui n'est nullement crédible, son interprétation étant l'une des pires de sa carrière. Avec sa conclusion totalement bâclée, Cobra nous laisse un goût amer dans la bouche, donnant l'impression par moment que ce film avait été réalisé avec un budget très restreint et que celui avait été fait pour aller directement sur le marché de la vente vidéo. Du côté de la trame instrumentale, c'est Sylvester Levay, ce compositeur yougoslave, qui s'est occupé ici de réaliser la musique du film, lui qui avait travaillé également sur la trame sonore de la série télé Airwolf, les films Hot Shots, Invitation to Hell et Navy Sealed. Je vous fais écouter ici le thème du film Cobra. We'll be right back.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Today we're interviewing a stomach.
Hello there.
What is life like as a stomach?
Oh, boy, it was humdrum. I mean, until what's-his-name discovered Tony's Pizza.
Tony's Pizza?
Yeah, I was suffering from the pizza cravings until Tony's came along. Crispy crust and zesty sauces. Wow!
And so now... What's that?
Another pizza craving. Just thinking about Tony's sets it off.
Oh, where are you going?
He's going to get a Tony's Pizza. And I follow him anywhere.
Does your stomach send you pizza craving signals? Oh, wow. Tony's, the pizza craver's pizza. Available at the concession stand.
There are models and models. Cars, of course. But the used car for you should be a model of reliability. Buy a used car you can depend on.
Fashion, dresses, suits, and coats in latest fashion for you, for you.
Of utmost importance to every drive-in theater patron is this parched, dry area located at the back of the throat. One of the best treatments we know is a frosty, fresh, bubbling, cold drink, such as you can find at this theater's refreshment center. And we have all of your family's favorite flavors. So for the dry, parched area in the back of your throat, visit your refreshment center for an ice-cold drink. A treat and a treatment.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixin'. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
They hunted him down.
You know, Colonel, we went to a lot of trouble to find you.
They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for.
If he wants your kid back, then you gotta cooperate, right?
Wrong.
Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay.
Do you think that he is going to give us any problems?
You'll do exactly as he's told.
Hasta luego, fellas.
You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last.
Are you going to tell me what's going on or what?
No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing?
Helping you get her back.
Remember, Sully, when I promised to kill you last?
That's right, Major. You did.
I lied.
If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando.
Let's party.
Commando est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 4 octobre 1985. Ce film américain d'une durée de 90 minutes a coûté 9 millions de dollars à produire et a amassé plus de 57,5 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Mark L. Lester, cet homme qui nous avait donné le film Firestarter, la version 1985, Class of 1984 et Night of the Running Man. Du côté du poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Joel Silver, lui qui avait produit les films Lethal Weapon, Demolition Man, The Matrix et Gothica. Et au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Stephen E. De Souza qui avait écrit les scénarios de 48 Hours, Die Hard et Judge Dredd. Au niveau de la distribution, on y retrouve Arnold Schwarzenegger, Ray Dawn Chong, Alyssa Milano, Dan Hedaya, Vernon Wells, James Olson, David Patrick Kelly, Bill Duke, Drew Snyder et Bill Paxton. Un ancien policier des forces spéciales, qui a pris sa retraite pour se consacrer à sa fillette, est forcé de tenter d'assassiner un président sud-américain après que sa fille ait été enlevée par les hommes d'un ex-dictateur. Afin de sauver la vie de celle-ci, l'officier échappe à ses sbires et demande l'assistance d'une hôtesse de l'air pour découvrir le repère des kidnappeurs. Le scénario original fut coécrit par Matthew Wiseman ainsi que Jeb Loeb, qui était surtout connu pour son écriture des bandes dessinées Batman The Long Halloween et Batman Hush. D'ailleurs, pour Loeb, Commando sera l'une des premières choses qu'il ait écrite dans sa carrière et sera suivi d'un premier jet pour la comédie fantaisiste Teen Wolf qui mettra en vedette le jeune acteur Michael J. Fox. Loeb, qui était encore dans la vingtaine et qui essayait de percer dans le monde du cinéma, ainsi que son partenaire d'écriture, Wiseman, envisageait à l'origine le personnage de Matrix comme un personnage plus âgé et en mauvaise forme physique, les deux hommes écrivant leur histoire avec en tête l'acteur Gene Simmons. Ce personnage devait à l'origine être un soldat israélien qui cherchait à tourner le dos à la violence, mais lorsque Simmons refusera de participer au projet, les deux hommes réécriront alors leur scénario avec en tête l'acteur Nick Nolte qui venait tout juste d'avoir du succès avec la comédie policière 48 Hours. Finalement, ce sera le producteur Joel Silver qui obtiendra les droits du scénario et ce dernier décidera alors de transformer le projet pour son étoile montante, l'acteur Arnold Schwarzenegger. Silver embauchera donc le scénariste Stephen E. De Souza qui réécrira alors le scénario complètement, ajustant ce dernier à l'image héroïque de Schwarzenegger, l'acteur obtenant un cachet de plus de 2 millions de dollars pour interpréter le personnage de Matrix. Le réalisateur John McTiernan se verra alors offrir la possibilité de réaliser ce film, mais dut refuser car il travaillait à ce moment sur son tout premier long-métrage en carrière, soit Nomad, qui mettait alors en vedette un jeune Pierce Brosnan. Ce sera finalement le metteur en scène Mark L. Lester qui acceptera le poste de metteur en scène, Silver, lui ayant fait l'offre durant une soirée à la Playboy Mansion. Au niveau de la distribution, ce sera la jeune actrice de 12 ans, Alyssa Milano, qui sera embauchée pour le rôle de la fille de Matrix. Milano commencera à travailler sur le long-métrage dès que le tournage de la première saison de la série télévisée Who's the Boss fut complété. Du côté de l'actrice Ray Dawn Chong, celle-ci aura une audition qui plut tellement au réalisateur que ce dernier l'embauchera sur le champ. Pour le vilain du film, ce sera l'acteur Wings Hauser qui obtiendra le rôle, mais ce dernier sera licencié après une journée de tournage et remplacé par l'acteur Vernon Wells. Wells fut le seul choix pour remplacer Hauser, principalement en raison de son rôle dans le film de science-fiction Mad Max 2 The Road Warrior. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les vêtements de Wells semblent un peu serrés pour lui, les grandeurs ayant été prises pour Hauser à l'origine, ce dernier étant plus mince que Wells. Cette situation surviendra simplement parce que le département des costumes du film n'avait pas le temps ni l'argent pour produire de tout nouveaux vêtements pour le nouvel acteur. Cette fois champion de la compétition Mister Olympia, Schwarzenegger travaillera avec l'expert en arts martiaux et chorégraphe Michael M. Vendrell pour perfectionner ses scènes de combat. Vendrell fut très impressionné par les progrès réalisés par Schwarzenegger tout au long du tournage et estimera que l'acteur avait atteint l'équivalent d'une ceinture noire au deuxième degré à la fin de la production. Avec un budget final de seulement 8 millions de dollars, le tournage débutera en avril 1985 à Los Angeles, à Catalina Island et à Santa Barbara, en Californie, avec une date de sortie prévue en octobre 1985. Au début, Schwarzenegger ne sera pas impressionné par Wells dans le rôle du méchant, mais le tout changera lorsque les deux acteurs tourneront leur scène ensemble, scène dans laquelle Wells lui mettra un couteau sous la gorge. D'ailleurs, après avoir joué la scène avec autant de conviction, Schwarzenegger demandera au réalisateur de s'assurer que Wells aurait toujours un couteau en plastique durant ses scènes de combat, craignant pour sa sécurité. À la fin du tournage, les deux hommes s'entendaient à merveille et sont restés amis au cours des années qui suivirent. Schwarzenegger dut exécuter lui-même plusieurs de ses propres cascades, car les producteurs avaient du mal à trouver un cascadeur à sa largeur pour le doubler. Compte tenu de son rôle physique impressionnant, le comédien autrichien subira quelques blessures mineures en cours de route. Il se disloquera une épaule et a également eu besoin de points de suture après s'être accidentellement coupé pendant une scène de combat au couteau. De plus, Schwarzenegger recevra une coupure au front, gracieuseté d'une co-star qu'il a accidentellement coupée lors du tournage d'une séquence de combat. Plutôt que de cacher cela, les cinéastes ont décidé de l'incorporer dans le film. Au total, Schwarzenegger sera transporté à l'hôpital à plus de 3 reprises durant la production. Que cela ne tienne, l'acteur se gardera en shape, courant entre 3 et 5 000 par jour et faisant des poids et haltères pendant plus d'une heure avant le début du tournage de ses scènes. Schwarzenegger sera très protecteur envers la jeune Alyssa Milano tout au long de la production et aidera même cette dernière à faire ses devoirs à quelques reprises. Lorsque la production sera terminée, Alyssa Milano obtiendra alors le surnom de Conan de la part de ses amis proches. À l'origine, Arnold Schwarzenegger et Ray Dan Chong avaient tourné une scène d'amour pour le long-métrage, mais cette dernière, qui se déroulait lorsque les deux personnages se dirigeaient en avion vers l'île où se trouvaient le vilain et la fille de Matrix, sera jugée peu convaincante et sera finalement retirée du film, ce qui enlèvera totalement toute forme de tension sexuelle entre les deux personnages. Quant au combat final entre Matrix et Bennett, le scénario était écrit de façon très différente. En effet, la séquence se devait beaucoup plus explosive, mais le manque d'argent dans le budget forcera la réécriture du script. D'ailleurs, le scénario sera réécrit à plusieurs reprises durant le tournage, forçant l'embauche des scénaristes Larry Gross et Richard Tuggle, dont les noms n'apparaîtront pas au générique du long-métrage. Après 45 jours de tournage, la production cessera au début juin avec un budget qui sera dépassé d'un million de dollars au final et un retard de seulement 2 ou 3 jours de l'horaire de tournage original. Ce sera le coutelier Jack Crane qui sera embauché pour réaliser le couteau du personnage de Matrix. Dans sa carrière, Crane réalisera plusieurs types de couteaux pour les films Predator, Roadhouse, Predator 2, Demolition Man et Executive Decision. Cependant, ce sera Commando qui consolidera sa réputation en tant que coutelier à Hollywood. Ce sera en janvier 1985 que l'agent de Crane fut contacté par Tom Shaw, le prop master du long métrage, pour réaliser l'arme pour le personnage principal, Arnold ayant été impressionné par le travail de l'artiste. À la demande de Crane, seul le colonel John Matrix n'aura en sa possession ce couteau de marque LS1. Les producteurs du film furent ravis du modèle, mais décidèrent que Matrix porterait 2 petits couteaux au lieu d'un et ils demanderont alors à Crane de créer un autre modèle. Dans le calendrier de production limité du film, Crane n'avait tout simplement pas le temps de concevoir et de construire ce nouveau couteau. Cependant, il avait auparavant été mandaté par une société privée pour développer une édition limitée de 50 petits couteaux de survie polyvalents qui portaient le nom de Scorpion. Crane obtiendra alors l'autorisation d'utiliser le scorpion dans le film et les numéros de série 8 et 9 furent expédiés à Hollywood. Crane ne permettra en aucun temps qu'un de ses couteaux ne soit utilisé par un méchant dans le long-métrage. Jack Crane décédera en septembre 2016 à l'âge de 70 ans. Le niveau de violence dans Commando entraînera la suppression de plusieurs scènes lors de sa sortie au Royaume-Uni. Le film aura sa sortie officielle en octobre 1985 dans plus de 1495 écrans en Amérique du Nord et amassera plus de 7,7 millions de dollars durant son premier week-end. Au final, Commando amassera plus de 35,1 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 22,4 millions de dollars du côté international. En raison du succès retentissant de la ligne des jouets G.I. Joe, A Real American Hero, une gamme de figurines Commando sera alors finalement lancée en 1986. Les jouets ont vu John Matrix diriger une nouvelle équipe d'agents d'élite des forces spéciales composée de Specs Blaster et Chopper contre les forces de Fear, dirigées par Psycho, qui lui était basé sur le personnage de Bennett, et composé de Leadhead, Stalker et Sawbones. Malheureusement, ces figurines ne se vendront pas très bien à l'époque. Le succès du film d'action forcera le scénariste Steven E. D'Souza à écrire une suite pour les producteurs Joel Silver, qui possédait alors les droits d'un roman intitulé « Nothing Lasts Forever », dans lequel un flic vieillissant doit sauver sa fille d'une prise d'otage dans un gratte-ciel. Cela aurait été modifié pour voir John Matrix de nouveau être forcé de sauver sa fille Jenny, mais le projet ne réussira pas à décoller, en grande partie parce que Schwarzenegger avait juré de ne plus faire de suite au décevant Conan the Destroyer. Cependant, le scénario sera retravaillé en 1988 et deviendra Die Hard, l'un des films d'action les plus appréciés de tous les temps, avec Bruce Willis en vedette. La séquence dans laquelle Schwarzenegger s'équipe avant son assaut contre la maison Darius eut son propre impact culturel. En effet, cette séquence fut recréée en pixels pour le jeu de tir d'arcade classique Operation Wolf, qui sera développé par la compagnie Taito et qui sera distribué en 1987 pour diverses plateformes de jeux. De plus, Commando inspira d'autres films d'action, tels que Strike Commando en 1987, Commando Squad également en 1987, et finalement When Eagles Strike en 2003. Du côté des points forts, eh bien, malgré un scénario simpliste, Commando est un popcorn movie qui reflète parfaitement l'ambiance des films d'action des années 80. Les one-liners de Schwarzenegger sont juste à point et les séquences d'action à répétition permettent au long métrage de garder un rythme endiablé. Le réalisateur sait comment gérer son budget restreint qui ne paraît pas beaucoup sur le résultat final de sa production, trouvant tout le temps une façon de nous donner de l'action même quand il n'y en a pas, notamment avec la relation de va-et-vient entre ces deux personnages principaux. Les cascades sont par moments spectaculaires et le visuel de Lester est tout de même soigné, permettant ainsi de ne pas avoir une impression qu'on assiste à un film de série B. La musique de James Horner est dynamique et rythmée, ce qui ajoute au charme du long métrage et permet ainsi à l'auditoire de passer un excellent moment. Mais du côté des points faibles, le scénario est simpliste et donne lieu à des moments exagérés, sans logique ou vraisemblance, forçant ainsi le spectateur à laisser ses facultés mentales à la maison. Les personnages ne sont nullement développés ici, l'histoire n'étant faite que pour satisfaire l'amateur d'action violente. La réalisation est quelque peu mécanique, ce qui nous donne ici des interprétations conventionnelles et caricaturales. D'ailleurs, le réalisateur se fout complètement de la continuité. Je donne comme exemple cette séquence de poursuite automobile où un véhicule est totalement endommagé sur le côté, mais lorsque nos deux personnages principaux repartent avec ce même véhicule, ce dernier semble sortir tout droit de chez le concessionnaire. Le plus gros problème avec Commando, c'est que le personnage de Matrix n'a pas vraiment de compétition. Il manque un méchant de premier ordre qui pourrait mettre la vie de notre héros en danger, ce qui n'arrive pas vraiment, l'acteur Vernon Wells n'étant pas, à mon opinion, à la hauteur de la situation. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain James Horner qui a réalisé ici la trame sonore de fond. C'est lui qui avait travaillé sur les trames sonores des films Titanic, Braveheart, Willow, Apollo 13 et Aliens, je vous fais écouter ici le thème du film Commando. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Cobra 6. J'y vais également avec un 6. Très fort d'ailleurs, film qui est vide de contenu et loin d'être un des meilleurs de Stallone. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des séquences de violence. Du côté de Commando, eh bien, Mediafilm a coté le film 6. J'y vais également avec un 6 pour le film en général, mais quand même, j'y vais d'une certaine façon avec un 5 parce que je trouve que, comparativement à Cobra, qui est un petit peu moins intéressant, Commando est un film qui s'écoute très bien et qui est de meilleure qualité que Cobra. Donc, finalement, au final, j'y vais quand même avec un 5. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais avec un 14 ans fort pour une violence quand même assez graphique. Du côté des trames sonores, eh bien, pour Cobra, la trame sonore est sortie en vinyle ainsi qu'en cassette 4 pistes. Une trame sonore qui est sortie sous l'étiquette Scotty Bros Record et qui incluait la majorité les chansons du film, très peu d'instrumentales. Alors que du côté de Commando, eh bien, on a eu plusieurs trames sonores qui ont été mises sur le marché. On a eu, bien sûr, la version originale qui est sortie sous l'étiquette Varese Sarabande en CD en 2003. On a eu, bien sûr, en 1985, la trame sonore de base qui a été également sortie en cassette et en vinyle. On a eu le Expanded Edition qui est sorti le 6 septembre 2011 sous l'étiquette La La Land Record. Il y a eu seulement 3000 copies. Vous avez une nouvelle édition en vinyle qui est sortie le 6 avril 2018 à seulement 1500 copies. Et ça, c'est sorti sous l'étiquette Real Gone. Et finalement, vous avez Commando, le 30th Anniversary Edition, qui a été distribué par les étiquettes La La Land Records le 19 mai 2015. Et il n'existe que 2000 copies de cet exemplaire. Au niveau du DVD et du Blu-ray, eh bien, du côté de Cobra, le film existe en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray disc, alors que du côté de Commando, le film existe également en français et en anglais. Vous avez l'édition régulière et vous avez également le Director's Cut qui a été fait. Donc, ces deux versions existent, comme je disais, français-anglais et en DVD, ainsi qu'en Blu-ray. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.
To the future.